Théodore de Jolimont, monologie du mois d'avril, poisson d'avril. Il faut ici, comme certains savants, grands explorateurs d'étymologie nébuleuse, rechercher d'abord de quel idiome antique est dérivé le nom français donné au mois que quelques poètes ont appelé le plus beau de l'année, sans doute quand il n'en est pas le plus triste, le plus humide et le plus crotté. S'il faut, dans l'esprit de cette sentence classique et passée en proverbe, qui proclame heureux celui qui en toute chose a pu connaître l'origine et les causes premières, s'il faut, je le répète, faire ici de l'érudition avec l'érudition de nos devanciers, je dirais que, dans leurs profondes investigations, et à l'aide de quelques complaisantes substitutions et transformations de lettres, ils ont découvert que le mot « avril » était parfaitement formé du mot latin « april »,« aprilis » ou « aperilis », qui lui-même était né d'un autre mot latin « aperire », qui veut dire « ouvrir ». De sorte que le mot « avril » serait à peu près synonyme de « porte »,« entrée »,« ouverture ». En effet, disent toujours les savants, en appelant à leur secours une ingénieuse métaphore, c'est dans le mois d'avril que la nature ouvre son sein pour reproduire tous les trésors qu'elle renferme. Le mois d'avril est la porte du printemps, l'entrée au solstice d'été, et semble présider, ainsi que le dit Virgile, à l'ouverture de chaque année nouvelle. Il est constant d'ailleurs qu'à diverses époques dans l'Antiquité, et même en France, avant le règne de Charles IX, l'année commençait au mois d'avril. Ce qui, en dépit d'une foule d'excellentes raisons que je ne veux point combattre et qui ont prévalu, paraîtrait plus naturel et plus raisonnable que de la faire commencer quand tout finit et meurt. Je suppose donc que le lecteur voudra bien admettre avec moi, jusqu'à ce qu'on ait trouvé mieux, l'étymologie tant soit peu équivoque du mot « avril » et que, fort satisfait sur ce point assez futile, il n'est pas moins curieux de rechercher encore ce que peut lui apporter d'intéressant la monologie du mois d'avril. Chez les peuples de l'Antiquité, longtemps encore au commencement de notre ère, on célébrait au mois d'avril le retour du printemps et la fertilité de la terre par des fêtes allégoriques en l'honneur du laboureur et de l'agriculture. Dans beaucoup de localités, on retrouve encore aujourd'hui des souvenirs et des restes de ces fêtes et les cérémonies religieuses chez les catholiques de la Saint-Marc et des Rogations sont une sorte de consécration des usages antiques. Les Grecs et les Romains invoquaient Cérès pour obtenir d'abondantes moissons, Cybèle pour qu'elle rendît féconde les jeunes épouses. Car alors, sans doute, une nombreuse lignée n'était point une calamité, et la philosophie ou l'économie sociale de ce temps ne préconisait pas probablement comme un bonheur la stérilité dans les ménages. On sacrifiait à Bacchus, protecteur des vignerons, à Jupiter, le père des humains, dont on lavait soigneusement la statue en la couvrant de myrte et de fleurs nouvelles, à Vénus, la déesse de la génération, des plaisirs et des amours. C'était à elle que le mois d'avril était particulièrement consacré. Le premier de ce mois, les dames romaines avaient grand soin de se mettre en un bain mélangé d'essence et de brûler fort ce parfum sur l'autel de Cypris, après avoir pris une ample portion de lait mêlée de miel et de pavot. Amalgame mystique auquel était attachée la croyance d'heureux effets. Elles portaient encore leurs offrandes dans les temples de la fortune virile, qui leur inspirait l'art de déguiser leurs défauts et de perfectionner les charmes du corps et de l'esprit. Les jeunes filles aussi ne manquaient pas de sacrifier à Érysine et ne demandaient à la complaisante déité que la beauté, les moyens de plaire et de séduire et surtout le bonheur d'avoir promptement un époux. L'hypocrisie, le faux semblant et le mépris des sentiments naturels n'avaient donc pas encore envahi la société. Sage époque où l'on ne croyait pas que l'innocence virginale fût incompatible avec la connaissance précoce des lois et des devoirs de l'hymen, où la première éducation apprenait d'abord à la jeune fille À quoi la destinent la nature et la société? Autre temps, autre mœurs. Prudérie, petit mystère, petite précaution, petit scrupule pour le bien, petit motif, qui pourrait nous démontrer ce que la morale y a gagné. On me pardonnera ces réflexions austères et fugitives. Elles viennent spontanément à la pensée, ne sont pas hors de propos. À quoi servirait l'étude des temps, si ce n'est à comparer, à commenter? Indépendamment des fêtes de Cérès, qu'on appelait Éleusine, et qu'on célébrait en certaines contrées, comme à Athènes au mois d'avril, au retour d'une période de quelques années, et de plusieurs autres fêtes non moins solennelles qu'il serait trop long de détailler ici, Tite-Live et Strabon parlent de l'usage, presque général, de consacrer aux dieux tout ce qui prenait naissance le 1er avril, ce qu'on appelait le vœu du printemps, Wer Sacrum. Chez divers peuples, le mois d'avril était encore l'époque de quelques autres fêtes qui n'avaient pas toujours pour but le culte de la rénovation des êtres et les joies symboliques de l'agriculture et des amours, mais qui se rattachaient à des usages locaux ou à des faits historiques. Telles étaient les fêtes hybristiques en usage à Argos, où les femmes, en mémoire du courage qu'elles avaient montré dans la défense de leur patrie contre les entreprises de Cléomène, roi de Sparte, avaient le droit de revêtir des habits d'hommes et d'insulter, de frapper même leur mari, comme un reproche perpétuel du peu d'énergie dont ils avaient fait preuve en cette occasion. Enfin, qui n'a pas eu quelque relation de la pompe avec laquelle, de temps immémorial, l'empereur du Céleste Empire, l'Empire de la Chine, fait au premier jour du printemps l'ouverture des travaux agricoles en traçant lui-même un premier sillon avec une charrue d'or. Mais il est bon, je pense, de ne pas prolonger davantage toute cette histoire ancienne du mois d'avril. Érudition de collège, tant soit peu surannée de nos jours, est nécessaire cependant au complément de cet opuscule. Chez les modernes, le mois d'avril a perdu toutes ses illustrations emblématiques et religieuses. Ses solennités séculaires ont disparu, et si quelques motifs lui donnent encore quelques droits à notre attention, c'est que, par suite des modifications successives des mœurs et des usages des peuples, ont succédé dans ce mois, on ne sait trop à quelle époque ni à quel sujet, au culte sérieux des bienfaisants mystères de la nature, des jeux frivoles et des passe-temps joyeux. Sans aucune analogie avec les traditions sacrées, et que d'assez longues et vieilles habitudes ont transmis jusqu'à nous ce selon assez peu motivé de poissons d'avril. Ces passe-temps auxquels beaucoup d'autres, comme moi peut-être, ont naguère encore dans la jeunesse pris quelque plaisir, et que les préoccupations incessantes de notre époque et le pédantisme glacé, récemment introduit dans nos relations de société, ont peu à peu proscrit, étaient alors assez redoutés des gens crédules, des esprits simples, des nouveaux venus, que les plus rusés se réjouissaient de mystifier de toute manière, en les faisant aller, agir en tous sens, les renvoyant de pierre à Paul, toujours sous de nouveaux prétextes, pour rire ensuite à leurs dépens et surfaire goûter à toute sauce ce qu'on est convenu d'appeler le poisson d'avril. Le premier jour d'avril surtout est le jour consacré au piège de toute espèce tendue à la bonne foi, à la simplicité. Toutes les ruses sont bonnes et l'on ferait un livre fort créatif des nombreux récits que fournissent sur le poisson d'avril les chroniques joyeuses. Celui-ci, que signalent certaines habitudes paresseuses et peu matinales, réveillé en sursaut bien avant l'aurore, est arraché aux douceurs d'un sommeil profond. Alors on le connaît curieux, on l'entraîne au champ. Là, le cou tendu, la bouche béante, on lui fait pendant 2 heures humer le brouillard pour voir chose remarquable, lui dit-on. Le passage de l'équinoxe sur un nuage. Celui-là, fort sensible aux sons argentins des écus, est averti de se rendre en un lieu indiqué pour toucher une somme importante qui lui arrive de la manière la plus inopinée. Le piège est vulgaire et commun, mais qui résiste à cette amorce? Il se hâte d'arriver, tout essoufflé, la mine béate, la vie en main, il réclame avec empressement la somme annoncée. Mais l'adresse est fausse, les titres ne sont pas en règle, que sais-je. Des malins compères s'entendent pour multiplier les courses et les démarches. Il faut des pourboires, des rançons de toute espèce. Il vide sa bourse, ne reçoit rien, et sous peine de passer pour un rustre, il doit, après tout, convenir de la meilleure grâce du monde que la plaisanterie était fort piquante. Ici, c'est un tendre et mystérieux rendez-vous qui promet à certains maris peu scrupuleux sur la foi conjugale le plus doux et le plus inattendu tête-à-tête. Enivré d'espérance, parfumé d'eau de rose, après 20 prudents détours, habilement ménagés, il parvient au discret boudoir où l'attend le bonheur. Que trouve-t-il? Sa femme. Elle ne peut se passer d'un cachemire qu'on lui refuse depuis longtemps. L'occasion est belle, le cas est grave et 1000 écus, c'est modeste, paye cette étourderie. Là, c'est un jeune pastoureau, d'ordinaire fort éloquent sur le chapitre de ses succès galants et de ses prouesses en escrime, mais dont la bruyante réputation n'a guère pour garant ce qu'il appelle ses indiscrétions. Sur les perfides avis de joyeux amis, il se rend en triomphateur où il se persuade de recueillir une ample moisson de plaisir. Mais l'heure s'écoule, l'isolement règne autour de lui, la beauté sensible fait défaut, et peut-être va-t-il prendre son parti quand tout à coup se présente un de ces spadassins fermes sur la hanche avec lesquels il n'y a point de quartier. Notre phobia s'est prise au trébuchet. Heureusement, d'officier témoin ne manque pas d'arranger l'affaire, et le mystifié, fort content d'en être quitte pour une brèche à sa vanité et le déjeuner d'usage, jure un peu tard qu'on ne l'y reprendra plus. On fait à croire à cet autre que je ne sais quel monarque de la Chine ou de l'Hindoustan, sur le bruit de son mérite, vient de le créer mandarin. Il ne peut se dispenser d'une visite aux ambassadeurs qui lui apportent la nouvelle. Et nouveaux bourgeois gentilhommes, on procède brusquement à sa réception. Ce dernier trait, tout historique et que l'on peut regarder comme le plus célèbre, le plus complet des poissons d'avril, est relaté très en détail dans un petit ouvrage fort rare, intitulé « La mandarinade », dont le héros est un estimable ecclésiastique, nommé l'abbé de Saint-Martin, et qui vivait à Caen, ville de Normandie, vers la fin du dernier siècle. Connu par son genre de vie extraordinaire, la singularité de ses ouvrages, et plus encore par son extrême bonhomie, on trouva plaisant de persuader à cet homme, aussi bon que crédule, qu'un livre très bizarre, qu'il venait de publier sur le moyen de vivre en santé au-delà de 100 ans, était parvenu jusque sous les yeux du roi de Siam, qui, charmé, lui assurait-on, d'une découverte aussi précieuse, avait résolu de députer à l'auteur des ambassadeurs extraordinaires chargés de lui offrir le titre de son premier médecin et de le revoir mandarin. On voit qu'il fallut avoir recours à des mascarades analogues à des pièces revêtues d'un caractère apparent d'authenticité, et même à une autorisation du roi de France qu'on feignit de solliciter en faveur du nouveau récipiendaire. Ces mesures furent si bien prises, la comédie si bien jouée, que le héros de la pièce, enthousiasmé d'ailleurs d'un tel honneur, consentit à tout ce qu'on voulut, accepta toutes les épreuves et tout le grotesque cérémonial qu'on lui fit subir. La réception fut des plus comiques, et cette longue et curieuse mystification, dont toute la ville fut témoin, à laquelle prirent une part active les personnages et les magistrats les plus éminents, fut complète. Plus de 2 heures après, l'abbé de Saint-Martin était encore dans l'erreur. On ne parvint qu'avec peine à le désabuser. Il se croyait toujours mandarin. Nos aïeux, on le sait, prenaient grand plaisir à s'intriguer de la sorte. Personne n'oubliait le jour des attrapes, les uns pour en faire, les autres pour s'en garantir. Et chacun, sur le qui-vive, se défiait des amorces trompeuses. Aujourd'hui, que nous sommes plus sages ou plus sots, ces badinages seraient mal accueillis. Cela cadrerait mal avec la suave gravité de notre adolescente aristocratie et le bon ton de notre progressive époque a proscrit la franche gaieté du vieux temps. Monsieur Jovial est un type qui a disparu. Tartuffe a pris sa place, on rumine, on ne rit plus. Je sais que certains observateurs au langage caustique viendra nous dire qu'il est maintenant des poissons d'avril d'autre sorte, qu'il en est de tous les mois et de toutes les saisons, qu'on peut avec aussi bon droit dire poissons de juillet ou de septembre que poissons d'avril. Il nous citera maintes bonnes niches, maintes tricheries, maintes espiègleries à l'ordre du jour, moins risibles peut-être et moins naïves, mais d'un effet plus sûr. Et vraiment, ajoutera-t-il, en doutez-vous ? Les poissons d'avril sont plus que jamais en honneur, non point les amusements frivoles qui désopilaient si bien la rate de nos grands-mères, mais ces poissons d'avril perfectionnés, qui ont passé les mœurs et les réjouissances du peuple dans les habitudes du monde élevé, non point ces poissons d'avril qui, pour des vétilles, faisaient trotter menu de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de la ruelle au cabaret, quelques badauds qui se laissaient leurrer, mais bien ces poissons d'avril qui font valeter d'une manière non moins pittoresque d'autres novices courant à perdre haleine du palais Bourbon au Luxembourg, du Luxembourg aux Tuileries, des Tuileries au ministère, des ministères à la Bourse, de la Bourse à l'Académie, de l'Académie chez tels et tels fonctionnaires. Tous, la main tendue, avides de recevoir le hochet et le bonbon dont on leur fait un appât, non pas poissons d'avril de hobereaux et de vilains, mais beaux et grands poissons d'avril de rois, de diplomates, de ministres, de très hauts et très puissants députés, d'illustrissimes académiciens, etc., etc. Traquenards fameux, attrapes mutuelles où l'on escamote à l'envi les empires, les pouvoirs, les emplois, les millions, la gloire, un méchant fauteuil, les droits et les libertés. Oh, tout doux mon imagination vagabonde. Cette innocente philippique à propos de poissons d'avril pourrait effaroucher plus d'un lecteur mal disposé, plus d'un esprit timide. Mais alors, je le répéterai comme ci-dessus, à quoi sert donc l'étude des temps et des choses, si ce n'est à les comparer, à les commenter ? Et l'histoire n'est pour moi qu'une longue énumération chronologique de poissons d'avril. Incrédule, prenez et lisez. Sans nous arrêter du reste dans de si hautes régions, qui de nous n'a pas goûté ou ne goûtera pas quelques jours de ces poissons d'avril d'espèces si variées, si séduisantes qui, dans la vie commune, surgissent sous nos pas à tous et nous mènent presque toujours le plus gaiement du monde, déception en déception. Tels, entre autres, ces poissons d'avril désastreux qui surprennent à certains jeux le spéculateur mal avisé, pour lequel le télégraphe n'agite pas ses longs bras, gobe-mouche inféodée, toujours habilement exploitée. Ces poissons d'avril plus anodins que nous ménagent quelquefois, je le dis à regret, et les cas sont rares, j'aime à le croire. Tantôt l'innocence, aux longs cils noirs, aux regards adoucis, au maintien des sangs, fleur en bouton qu'on vous presse de cueillir. Tantôt un miracle de grâce et de talent que vantent à haute voix tous les échos d'alentour, et dont le père, honorable industriel, a depuis un an triplé sa dépense et prépare son bilan. Tantôt cette veuve à l'allure agaçante, qui ne compte, dit-on, que 25 printemps, fut la perle des épouses, et dont les rigueurs bien connues désespèrent 10 rivaux. Dieu sait que je ne veux pas médire, mais en ce cas, amateurs, jeunes ou surannés, que sollicite un désir d'hymen, garde à vous. Ces poissons d'avril horriblement décevants qui nous escamotent l'héritage d'un ingrat célibataire qu'on avait cessé de bourrer de petits soins et à qui surgit in extremis je ne sais quelle nièce inconnue ou je ne sais quel fils adoptif. Ces poissons d'avril littéraires ou dramatiques qui ruinent l'espérance de 20 créanciers qui ont hypothéqué leurs droits sur le succès incontestable d'un chef-d'œuvre escompté d'avance. Mais le public a jugé, le livre est refermé, la toile est tombée, néant. Ces poissons d'avril qui font grincer les dents, maugréer et maudire, et que Dame Justice n'épargne guère aux incorrigibles plaideurs. Ces mille et un poissons d'avril, enfin ces mille et un pièges tendus, sous les fleurs toujours renaissant pour de nouvelles dupes, sous des formes mille fois variées. Ces mille et une tromperies, tours de passe-passe, fort plaisants, ma foi, qui font si bien ricaner dans l'ombre les rusés. Les vrais Méphistophélès, dont les grilles crochues harponnent jusqu'au vif les innocents tourlourous des phalanges industrielles. Ces poissons d'avril, pour en finir, désignés plus ou moins clairement dans le glossaire de l'idiome satanique des faiseurs d'affaires, sous le nom d'associations, sociétés plus ou moins anonymes, compagnies, commandites, spéculations à prime, exploitations universelles, fabrications au rabais, brevets d'invention, privilèges, actions, participations, vente de fonds, liquidation, consignation, canaux, vapeurs, chemin de fer, houille, asphalte, etc., etc. Approchez, grands et petits, tout le monde en aura. Les premiers venus sont le mieux serglotis. Vive donc le poisson d'avril au XIXe siècle et rira bien qui rira le dernier. Cependant, si dans le meilleur des mondes et sous la meilleure des républiques possibles, la crainte d'être pris pour dupe doit à bon droit nous rendre moins crédules, souvenons-nous qu'on peut aussi se repentir d'avoir été défiant. Pour preuve, qu'il me soit permis de rappeler cette historiette que tout le monde connaît, mais qui doit trouver place dans l'histoire des poissons d'avril. Un jour, et ce devait être un 1er d'avril, certains plaisants, placés sur le pont neuf, offraient de la meilleure grâce du monde à tous les passants d'échanger des écus de 6 livres tout neufs contre des pièces de 24 sous, monnaie du temps. Il avait parié qu'en un temps donné, il ne dépenserait ainsi qu'une somme très modeste. Beaucoup s'approchent, sourient, touchent les écus, les pèsent, les font sonner, mais s'en vont en hochant la tête. « Ils sont faux, » disent-ils à d'autres, « est-ce que ce monsieur croit faire des dupes ?» Le plus grand nombre ne daignait même pas s'arrêter. Une femme seulement, c'était pure curiosité, après beaucoup d'hésitation, risque ses 3 pièces de 24 sous. « Ce fut tout ce que notre homme recueillit. » Il gagna sa gageure et garda ses écus. Le lendemain, tout Paris sut la vérité du fait, et plus d'un quidam regretta de n'avoir point conclu l'affaire. Cet avis en vaut 1000. S'il est facile de remplir sa mémoire des facétieux poissons d'avril du temps passé et de gloser tout à son aise sur ce plus sérieux des temps modernes, il est beaucoup moins aisé de connaître l'origine véritable des premiers poissons d'avril et de l'usage singulier de ces intrigues innocentes, objet principal de mon travail. En vain, j'ai interrogé Aristote, Pline et Sénèque. En vain, j'ai consulté chroniqueurs et romanciers du Moyen-Âge et feuilleté main in folio, le tout, il faut l'avouer, presque en pure perte. Suivant les uns, cet usage remonte au temps d'un certain duc de Lorraine que Louis XII faisait garder à vue dans la citadelle de Nancy. Un beau jour, juste le 1er avril, Il saute à pieds joints dans la Meuse et s'échappe à la nage, ce qui fit dire aux Lorrains que c'était un poisson qu'on leur avait donné à garder. Selon d'autres, les pêches du mois d'avril sont souvent stériles, et plus d'un friand, pendant ce mois, voit manquer sur sa table ou sur celle de son amphitryon le mets délicat sur lequel il avait compté. D'où serait venue la coutume de dire « manger du poisson d'avril », « donner un poisson d'avril », etc. Si l'on en croit des étymologistes plus profonds, nos jeux populaires du 1er avril seraient une dégénération des pieuses représentations de la passion de notre Seigneur et une parodie de la promenade dérisoire qu'on lui fit faire en le renvoyant de Caïphe à Pilate, et dans ce sens, poisson d'avril ne se dirait que par corruption pour passion d'avril. C'est bien la peine de se faire savant, de passer sa vie à avaler la poussière des bouquins et à déchiffrer des grimoires, pour n'avoir à dire que de pareilles rhapsodies. J'en suis désolé, mais la science fait défaut. Je ne doute pas cependant que plus tard, demain, peut-être en ce moment même, un antiquaire, plus heureux ou plus patient que moi, ne découvre la bonne, la véritable origine. En attendant, chacun peut choisir dans ce qui vient d'être dit ce qui lui conviendra le mieux, ou en inventer, comme j'aurais pu le faire moi-même si j'avais moins de conscience. Ce serait trop long et dépasser le cadre destiné à cette petite notice que d'épuiser tout ce que l'histoire des peuples modernes pourrait encore fournir de curieux sur les coutumes singulières et les cérémonies religieuses ou profanes en usage au mois d'avril, soit que ces peuples en aient hérité de l'Antiquité la plus reculée, soit que la cause s'en rapporte à quelques faits de leurs annales particulières. Et cette surabondance même deviendrait étrangère à notre objet principal. Il suffira, je pense, de raconter ici, comme un des spécimens les plus dignes de remarque, ce qui se passe chaque année le 1er avril dans le palais des descendants de Mahomet, la fête des tulipes. On sait quelle vénération les musulmans portent à cette fleur qui est née dans leur climat, les hommages presque divins qu'ils lui rendent, et qu'un présent de tulipes rares est une des plus grandes marques d'estime que l'on puisse s'accorder. Le 1er avril, donc, jour mémorable, jour brillant et fortuné pour les vrais croyants, et plus encore pour les époux du sultan, on construit dans la grande cour du sérail de vastes et magnifiques galeries, sous lesquelles est rangée, sur de nombreux degrés disposés d'un amphithéâtre, une prodigieuse quantité de carafes garnies des plus belles et des plus rares tulipes, entremêlées de vases précieux, de lampes, de flambeaux et de globes de verre de différentes couleurs. Tous ces riches échafaudages sont surmontés de cages d'or, où des milliers de serins et d'oiseaux divers célèbrent par leur mélodieux gazouillement leur rêve de la nature. À l'entrée de la cour s'élève majestueusement le somptueux pavillon de sa hôtesse, devant lequel, sur de riches tapis, sont déposés les présents magnifiques offerts à leur maître par les courtisans et les officiers du palais. Lorsque tout est prêt, les eunuques font sortir avec leur politesse accoutumée, c'est-à-dire à coups de fouet, tous ceux qui sont inutiles ou de trop, ouvriers et curieux. Le progrès est encore peu sensible à Constantinople. Chez nous, on le sait, c'est plus poliment qu'on vous mette à la porte. Les clôtures extérieures se ferment et les femmes du sérail, les célestes houris, plus fraîches et plus vermeilles que les tulipes, plus resplendissantes que les flambeaux, plus brillantes, plus vives, plus sveltes que les fauvettes et les serins, plus suaves que les parfums, style oriental, viennent animer ce nouveau paradis où l'art et la nature réunis charment tous les sens à la fois. L'air retentit des plus doux concerts, bientôt elles forment 1000 jeux, 1000 danses voluptueuses, dociles au moindre vœu du sultan, toutes rivalisent pour lui plaire de séduction, de grâce et d'agaçante coquetterie. Heureuse celle sur qui vient tomber, même par distraction, un coup d'œil du grand monarque de la sublime porte. La fête se termine enfin, et le gracieux Kislaraga vient offrir de la part du grand seigneur des bijoux et des colifichets à celle de ses femmes qui ont eu le bonheur de lui donner le plus de plaisir ou le rare talent de le distraire quelques minutes de l'ennui qui le dévore. Il eût manqué quelque chose à la célébrité du mois d'avril s'il eût été l'objet des inspirations fréquentes des favoris du Parnasse. Les poètes anciens et modernes ont tous chanté le mois d'avril comme le temps de la verdure, des fleurs et des amours. Ovide et Virgile ont célébré ces mystères. Et qui ne connaît pas les tendres sonates, les galantes ballades, les sentimentales bucoliques que le 12 avril a souvent dicté à nos Berthaud, nos Déhoulières, nos Desportes, nos Ronsard. Célébrez son triomphe, habitant des campagnes, s'écrit dans son enthousiasme notre chantre des mois. Il rajeunit le teint sur le front des montagnes, blanchit dans les vergers les tendres arbrisseaux, épaissit le gazon qui borde les ruisseaux. De la reine des fleurs parfume la corbeille, et prépare le miel que vient cueillir l'abeille. Dans un ballet des saisons joué à Versailles en présence de Louis XIV, le mois d'avril personnifié s'exprime ainsi. J'anime toute la nature, des plus affreux hivers j'écarte le frimas. J'amène les beaux jours, les fleurs et la verdure. La terre à mon retour répand tous ses appâts. Les ris, les jeux, la charmante jeunesse accompagnent tous mes pas. Les plaisirs me suivent sans cesse, tout languit où je ne suis pas. Que la terre embellie étale mes bienfaits, que la brillante flore et la jeune zéphyre parfument en tout feu l'air que chacun respire. Ces banalités poétiques, pastorales et champêtres à l'usage des petits maîtres parfumés d'ambre, des langoureuses marquises et des grisettes métromanes du siècle passé, sont aujourd'hui peu goûtées. Il faut sans doute au Victor Hugo, au Lamartine, au Marcellus, au Vienne, qui depuis ont envahi le Parnasse, et à leurs admirateurs, des sujets plus saisissants, des épopées plus impressionnables, des tableaux moins naturels. Pour morceau final et complément de cette monologie un peu bavarde du mois et du poisson d'avril, et ne rien laisser ignorer de tout ce qui peut avoir rapport à ce grand sujet, je dois placer ici un conte ingénieux dans lequel l'un de nos poètes, qui s'est exercé avec succès dans le genre naïf créé par La Fontaine, raconte fort agréablement l'origine du poisson d'avril. Pour corriger, il faut s'y prendre bien. Sans cet art-là, beaux discours n'y font rien. Rien n'y fait la douce éloquence, et pour réussir, je prétends que savoir le faible des gens sera toujours leur suprême science, que d'homme à qui la raison ne peut jamais rien faire entendre. J'en connais un. Le brusqueton, c'est un lion. Sachez le prendre. Par l'endroit faible, il deviendra mouton. L'entêtement, peut-être, n'est pas vice. Mais quel défaut! Un picard entêté était malade et l'exercice devait lui rendre la santé. Mais comment faire? Il avait projeté, par goût, peut-être par caprice, de ne bouger. Or, un projet, une fois entré dans sa tête, plus l'en sortait. « J'ai mis là, répondait-il, c'est fait. Le médecin n'est qu'une bête. » Que répondre à cela ? Lecteur, il faut vous dire que notre homme était le plus friand mangeur qu'on ait vu de Paris à Rome. Friand surtout de fins poissons. Un jour arrive en sa maison un inconnu qui lui dit à l'oreille « Monsieur, grande nouvelle, on pêche pris d'ici un gros poisson inconnu jusqu'ici, mais d'un goût, c'est une merveille. jamais poisson d'une chair pareille. Ah, Dieu, pourriez-vous bien, dit-il, m'en procurer ? La chose est un peu difficile. Il en vient ce mois-ci, dit-on, mais dans la ville, il faudra l'empêcher d'entrer, car s'il entre une fois, c'est une affaire faite. Les princes en feront l'empelette. Le roi peut-être aussi va-t-il s'en emparer ? S'en emparer, ô ciel, mais comment s'y prendre ? Quel stratagème ! Il en est incertain. C'est d'aller vous-même l'attendre. Mais où l'attendre ? Sur le chemin. Oh, j'irai, quand vient-il ? Demain ? Après-demain ? Oh, quant au jour, on l'ignore, mais c'est dans ce mois. Oh, j'irai, palsambleu, j'en goûterai. Il tint parole. Dès l'aurore, au-devant du poisson, il court le lendemain. Avril était venu, la feuille allait éclore, les champs n'étaient point sans appât. Mais de la renaissance, il ne s'occupait guère, ce n'était point là ses affaires. C'est le poisson qu'il appelle tout bas. Et le poisson n'arrive pas. Suivant toujours la même route, le jour d'après, dès le matin, il vient encore en vain. Deux fois, trois fois de même. Il enrageait sans doute, mais l'espérance abrégeait le chemin. Longtemps ainsi dura la promenade. Pas le moindre poisson. Mais l'exercice enfin avait guéri tout à fait le malade, quand sur sa route, un jour, parut son médecin. « Oh ! Dit celui-ci, vous avez bon visage. Qu'attendez-vous sur ce rivage ?»« Un poisson fort exquis, dit-on, mais on l'aura mangé, je commence à le croire. »« Ah, un poisson, j'en connais l'histoire. » C'est un poisson d'avril, il est de ma façon. Oh, vous ne m'en voudrez point, j'espère, pour vous l'avoir servi. Car c'est par ce mets-là que votre guérison s'opère. Du poisson, il se consola. Grand merci de ce bon office, lui dit-il. Sans cet artifice, on eût en vain tenté ma guérison. On sait que l'homme, en sa vieille saison, est souvent un enfant qu'il faut tromper de même. Et qu'un innocent stratagème peut sur lui plus que la raison. S'y finissent les dits et notables enseignements, tout au long et sans y requérir, mis en lumière par votre serviteur, touchant les origines et curiosités des poissons d'avril. Si d'aventure le lecteur parvenu bénévolement jusqu'à l'explicite maugré tant soit peu, sur l'insuffisance, incertitude et vanité du présent poisson scientifico-littéraire, l'auteur, très humblement, lui recorde qui celui ne pouvait être autre chose que poisson d'avril, le 1er avril de l'an de grâce 1843.